Ceux qui sont aimés mènent une vie difficile et pleine de dangers. Ah, que ne se surmontent-ils pas pour aimer à leur tour? Autour de celles qui aiment, il n'est que sécurité. Plus personne ne les soupçonne, et elles-mêmes ne sont plus capables de se trahir. En elles, le secret est devenu intangible. Elles le clament tout entier comme des rossignols, et ils ne se divisent pas. Leurs plaintes ne visent qu'un seul, mais la nature entière y joint sa voix. C'est la plainte sur un être éternel. Elles se jettent à la poursuite de celui qu'elles ont perdu, mais dès les premiers pas, elles l'ont dépassé, et il n'y a plus devant elles que Dieu. Leur légende est celle de Byblis qui poursuit Konos jusqu'en Lycie. La poussée de son cœur lui fit parcourir des pays innombrables sur les traces de celui qu'elle aimait, et finalement, elle fut à bout de force. Mais si forte était la mobilité de son être que lorsqu'elle s'abandonna, par-delà sa mort, elle reparut en source rapide. Qu'est-il arrivé d'autre à la Portugaise, sinon qu'à l'intérieur elle est devenue source? Quoi d'autre à Héloïse? Quoi d'autre à toutes celles qui aimèrent et dont les plaintes sont parvenues jusqu'à nous? Gaspara Stampa, la comtesse de Die et Clara d'Anduze, Louise Labbé, Marceline Desbordes, Elisa Mercœur. Mais toi, pauvre haïssée fugitive, tu hésitais déjà et tu cédas. Las, Julie Lespinasse, légende désolée du parc heureux, Marianne de Clermont. Je me souviens encore exactement qu'un jour, il y a longtemps, je trouvais chez nous un écrin à bijoux. Il était large comme deux mains, en forme d'éventail, avec un rebord de fleurs incrustées dans le maroquin vert foncé. Je l'ouvris, il était vide, je puis dire cela à présent, après tant d'années. Mais en ce temps, lorsque je l'eus ouvert, je vis seulement en quoi consistait ce vide. En velours, en un petit mamelon de velours clair un peu défraîchi, en la rainure du bijou qui s'y perdait, vide et plus clair d'un rien de mélancolie. Un instant cela était supportable, mais pour celles qui ont été aimées et qui sont demeurées en arrière, tout est peut-être toujours ainsi. Remontez en arrière dans vos journaux. N'y eut-il pas toujours autour des printemps une époque où l'année, en faisant irruption, vous atteignait comme un reproche? Il y avait en vous une disposition à être joyeuse, et cependant, lorsque vous sortiez dans le vide spacieux, une hésitation étrange naissait dans l'air, et votre marche devenait incertaine comme sur un bateau. Le jardin commençait, mais vous, c'était cela, vous y entraîniez l'hiver et l'année passée. Pour vous, c'était tout au plus une suite. Tandis que vous attendiez que votre âme participât à la saison, vous éprouviez soudain le poids de vos membres et quelque chose comme la possibilité de tomber malade pénétrait dans votre pressentiment ouvert. Vous l'attribuiez à votre robe trop légère, vous jetiez le châle sur vos épaules, vous couriez jusqu'au bout de l'allée et puis vous étiez là, le cœur battant, au milieu du large rond-point, résolu à être d'accord avec tout cela. Mais un oiseau chantait et était seul, et vous reniait. Ah, vous eussiez dû être morte. Peut-être, peut-être est-ce nouveau que nous surmontions cela, l'année et l'amour. Les fleurs et les fruits sont mûrs lorsqu'ils tombent. Les animaux se sentent, s'entr'ouvrent et en sont contents. Mais nous qui avons projeté Dieu, nous ne pouvons pas finir par être prêts. Nous remettons notre nature, nous avons encore besoin de temps. Qu'est-ce pour nous qu'une année? Que sont-elles toutes? Avant même que nous ayons commencé Dieu, nous le prions déjà. Fais-nous survivre à cette nuit. Et puis les maladies, et puis l'amour. Que Clémence de Bourges ait dû mourir à son aurore, elle qui n'avait pas sa pareille. Parmi les instruments dont elle savait jouer comme nul autre, le plus beau, joué de façon inoubliable, même dans le moindre son de sa voix. Sa jeunesse était si hautement résolue qu'une amoureuse pleine d'élan put dédier à ce cœur naissant le livre de sonnets dans lequel chaque vers était inassouvi. Louise Labbé ne craignit pas d'effrayer cet enfant par les longues souffrances de l'amour. Elle lui montrait la montée nocturne du désir et lui promettait la douleur comme un univers agrandi. Et elle soupçonnait qu'avec sa douleur pleine d'expérience, elle était loin d'atteindre cette attente obscure qui faisait belle cette adolescente. Jeune fille dans mon pays, que la plus belle d'entre vous en été, l'après-midi, dans la bibliothèque sombre, ait trouvé le petit livre que Jean des Tournes a imprimé en 1556, qu'elle ait emporté le petit volume lisse et rafraîchissant, dehors, dans le verger bourdonnant, ou de l'autre côté, près du phlox, dans l'odeur trop douce duquel il y a comme un résidu de sucre pur. Qu'elle l'ait trouvé tôt, en ces jours où ses yeux commencent déjà à prendre conscience d'elle, tandis que la bouche plus jeune est encore capable de mordre d'une pomme des morceaux trop gros et d'être pleine. Et si vient alors le temps des amitiés plus mouvementées, que ce soit votre secret de vous appeler les unes les autres, Dika, Anactoria, Girino et Attis. Qu'un homme plus âgé, un voisin peut-être, qui aurait beaucoup voyagé et serait considéré déjà comme un original, vous révèle ses noms. Qu'il vous invite quelquefois chez lui, pour l'amour de ses pêches célèbres, ou à cause des eaux fortes de Ridinger sur l'équitation, là-haut dans le couloir blanc, de ces eaux fortes dont il est tant question qu'il fallait bien les avoir vues. Peut-être le persuaderez-vous de vous raconter quelque chose. Peut-être celle-là est-elle parmi vous qui saurait le décider à chercher les vieux cahiers de son journal de voyage. Qui sait ? La même qui un jour réussit à se faire révéler que certains fragments de la poésie de Sappho nous sont parvenus, et qui n'a pas de repos jusqu'à ce qu'elle ait appris ce qui est presque un secret, savoir que cet homme retiré aimait à consacrer ses loisirs à la traduction de ses morceaux. Il doit concéder que depuis longtemps il n'y a plus pensé, et ce qui est là, assure-t-il, ne vaut pas qu'on en parle. Mais à présent, il se sent heureux quand même, devant ses candides amies, lorsqu'elles insistent beaucoup pour lui faire dire une strophe. Il retrouve même au fond de sa mémoire le texte grec, il le prononce à haute voix, parce que la traduction, lui semble-t-il, n'en exprime pas le meilleur, et pour montrer à cette jeunesse, par les belles brisures de cette langue, la matière massive du poème, ployée en des flammes si fortes. Tout cela finit par animer de nouveau sa chaleur au travail. Des beaux soirs presque jeunes viennent pour lui, des soirs d'automne, par exemple, qui ont devant eux beaucoup de nuit et de calme. Dans son cabinet, la lumière brûle alors très tard. Il ne reste pas toujours penché sur les feuillets. Il s'appuie souvent en arrière. Il ferme les yeux sur telle ligne maintes fois relue, dont le sens se répand dans ses veines. Jamais il n'a été aussi certain de l'Antiquité. Il est presque tenté de sourire des générations qui l'ont pleuré comme un spectacle perdu, dans lequel ils eussent volontiers joué un rôle. À présent, il comprend momentanément la signification dynamique de cette précoce unité du monde qui avait comme assumé, ensemble et d'une façon nouvelle, tout le labeur humain. Il n'est pas détourné de sa certitude par le fait que cette culture conséquente, avec ses phénomènes visibles, en quelque sorte sans lacune, semblait former un tout pour des regards postérieurs, et comme un spectacle dans son ensemble révolu. Sans doute la moitié céleste de la vie était-elle adaptée à la coupe ronde de l'existence terrestre, comme deux hémisphères forment ensemble une boule d'or intacte. Mais à peine ceci fut-il accompli, que les esprits qui étaient enfermés au-dedans n'éprouvèrent plus cette réalisation sans reste que comme une parabole. L'astre massif perdit son poids et monta dans l'espace, et dans sa voûte dorée se reflétait de loin la tristesse de tout ce qui n'était pas encore vaincu. Tandis qu'il pense cela, le solitaire dans sa nuit, le pense et le comprend, il aperçoit une assiette de fruits sur l'accoudoir. Malgré lui, il prend une pomme et la pose devant soi, sur la table. « Comme ma vie flotte autour de ce fruit, » songe-t-il. « Autour de tout ce qui est parfait, monte et s'exhale ce qui reste encore à accomplir. » Et alors, de l'inachevé surgit presque trop vite cette petite figure tendue par-delà l'infini, à laquelle, au témoignage de Galien, tous pensaient lorsqu'ils disaient « la poétesse ». Car de même que derrière les œuvres d'Hercule, le monde se dressait et demandait à être détruit et reconstruit, de même se pressait hors des réserves de l'être vers les actes de son cœur pour être vécu, les bonheurs et les désespoirs dont les temps doivent se contenter. Il connaît tout à coup ce cœur résolu qui était prêt à s'acquitter de tout l'amour jusqu'à la fin. Il ne s'étonne pas qu'on l'ait méconnu, que l'on n'ait vu que l'excès de cette aimante à tout jamais futur, et non une nouvelle unité de mesure, d'amour et de détresse. Que l'on ait interprété la légende de sa vie comme elle avait été par hasard admise à cette époque-là. Qu'enfin, on lui ait attribué la mort de celle que le Dieu excite seule à aimer hors d'elle-même, sans réponse. Peut-être, parmi les amis même qu'elle avait formés, y en avait-il qui ne comprenaient pas ? Qu'au comble de son action, elle se lamentait non sur un seul qui laissa vide ses bras ouverts, mais sur celui, désormais impossible, qui avait été assez grand pour son amour. Ici, l'homme qui songe se lève et va à la fenêtre. Les murs de sa chambre haute sont trop proches. Il voudrait voir les étoiles, si c'est possible. Il ne se trompe pas sur lui-même. Il sait que ce mouvement l'anime parce que parmi les jeunes filles du voisinage est celle qui le regarde. Il a des vœux, non pour lui, non, mais pour elle. Pour elle, il comprend, durant une heure nocturne qui passe, l'exigence de l'amour. Il se promet de ne rien lui en dire. Il lui semble que tout ce qu'il peut faire, c'est d'être seul et éveillé, et de penser à propos d'elle combien cette aimante avait raison. Lorsqu'elle savait que la réunion de deux êtres ne faisait qu'accroître la solitude, lorsqu'elle dépassait la fin terrestre du sexe par son dessein infini, lorsque dans l'obscurité des étreintes, elle ne cherchait pas le contentement, mais encore le désir, lorsqu'elle méprisait que, de deux êtres, l'un fût l'aimé, et l'autre l'aimant, et lorsque les faibles aimées qu'elle menait à sa couche en sortaient, fortes d'amour et prêtes à la quitter. Par ses adieux suprêmes, son cœur devenait une force de la nature. Au-dessus du destin, elle chantait à ses plus récentes aimées leurs épithalames. Elle magnifiait leurs noces, elle exagérait leur époux proche, afin qu'elles fissent un effort sur elles-mêmes, pour lui, comme à l'égard d'un dieu, et qu'elles surmontassent la splendeur de l'époux.